Bonjour. Bonjour à toi, Muriel. Tu es la première aujourd'hui, Muriel. Enfin, à ce que je vois là, hein? Je ne vais pas le cas, hein? Mais voilà, que Dieu te bénisse. Quel bonheur ça serait d'aller jusque là-bas, hein? Marie-Hélène et moi, durant cette année-ci. Donc, je vais aborder le sujet, bien sûr, du pardon dans l'Église. Que Dieu te bénisse, chère sœur en Christ, et que Dieu bénisse tous les autres déjà qui écoutent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. Vous savez que l'attitude du chrétien dans une église vis-à-vis des autres chrétiens est très importante. Il faut éviter de faire des jeux de mots, parfois des réflexions stupides. Ça peut paraître pour des sarcasmes et des critiques pour celui qui les reçoit. Il faut être prudent et sage dans les paroles que nous employons. Il faut avoir un usage très prudent de la langue. Je vous le dis franchement, Jacques avait raison dans son épître de dire que c'était un petit organe qui met le feu à la forêt, qui agit, qui fait des dégâts considérables. Et je pense que, en analysant souvent les choses, vous savez, j'observe beaucoup de choses quand je visite, je fais des études bibliques, et je ne me permets pas souvent de dire tout de suite, je préfère prier et attendre que ça se manifeste. Non, naturellement, si ça ne se manifeste jamais, c'est à moi de mettre le doigt dessus et de soulever la question. Mais souvent, ça se manifeste. Si j'ai pris le temps de prier et que les chrétiens sont poussés par le Saint-Esprit à se remettre en question, ça se manifeste. Et souvent, il y a eu des blessures dans les paroles entre chrétiens, etc. Il faut faire très attention. Il faut faire attention, ce n'est pas bon de faire des jeux de mots, de s'amuser à faire de l'esprit et de sortir des réflexions, même dans un couple chrétien, de sortir tout comme ça, d'un seul coup, sous le coup de l'adrénaline, de l'impulsion, de l'énervement, surtout du manque de prière. Et parce qu'on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, on sort n'importe quoi. Alors, il est clair que dans Jacques, la parole est décrite comme quelque chose, la langue comme quelque chose de très très important. Bien sûr, on peut dire des bonnes paroles, mais on peut parfois dire 100 bonnes paroles et puis une autre ou une deuxième autre peuvent tout saccager, comme si les 100 n'avaient pas existé. Et donc, il est très important. Si quelqu'un, Jacques, chapitre 3, verset 2, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait ou une femme parfaite, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Donc, on voit vraiment que là, j'ai essayé d'analyser et de comprendre. Je pense que notre corps essaye de dominer sur notre esprit. Nous avons cette tendance à ce que notre corps revienne toujours pour être le maître de nos pensées et nous finissons par penser comme nous vivons. Or, tout le contraire, pour Dieu, on ne pense pas comme on vit, pour Dieu, on doit vivre comme on pense. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui doit être le maître et tenir en bride cette nature humaine. qui est bourré d'instinct, de frustration, de désir, de passion, qui a accumulé des tas de choses et qui les ressort à n'importe quand, et d'ambition, parfois de vanité, et donc il faut faire attention. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Donc nous sommes le pilote de notre corps, et pas l'inverse. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Donc attention à la vanité, évidemment. C'est vite fait, hein. Moi, je suis dans le cas aussi, chers amis. Hein. Je suis pas mieux que quiconque, hein. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Évidemment, vous le savez très bien, hein. Les feux commencent avec une petite allumette, une cigarette, et se propagent sur des milliers d'hectares. Sur Terre, il disparaît 35 000 km² tous les ans à cause du feu. C'est énorme. C'est énorme. Eh bien, je pense qu'au niveau spirituel, à cause de ce feu de la langue, par la télévision, par la radio, par nos vies superficielles, nous détruisons 35 000 km². Non, 35 000 personnes peut-être. Ou 350, ou 35, ou 3-4. Et pour d'autres qui ont des moyens très importants, en paraissant presque toujours à la télévision, 300-400 000, 35 millions, 40 millions. La langue est quelque chose de très important, les amis. Et la langue est aussi un feu. Jacques, chapitre 3, verset 6. C'est le monde de l'iniquité. Donc l'iniquité par rapport au péché, je vous le dis tous, j'essaye de simplifier les choses. L'iniquité, c'est commettre un acte pertinemment en sachant qu'il est mauvais, et que notre conscience nous dit de ne pas le faire. Ou, quand on est chrétien, que Dieu nous demande de ne pas le faire, de ne pas le dire. C'est ça l'iniquité. C'est une effronterie, c'est un acte de rébellion, c'est un acte d'insoumission, de désobéissance. Conscient. Il y a, bien sûr, ce qu'on appelle le péché prend toutes ses formes, toutes différentes formes, liées au tempérament que nous avons, liées à l'éducation que nous avons, liées à nos frustrations, etc., nos déceptions, idéalisations, enfin tout ça c'est complexe dans l'homme, mais l'iniquité c'est quelque chose qui passe par l'esprit, par le conscient. La langue est placée parmi nos membres, elle souille tout le corps, elle enflamme le cours de la vie, ben oui. Ça peut empoisonner l'existence, hein, étant elle-même enflammée par la gêne. Donc, nous voyons bien que il y a au départ quelque chose qui vient de Satan. Derrière, un très mauvais exercice de la langue, des paroles, derrière l'usage d'une parole inique. Alors, je vais plus loin. Au verset 9, par elle, par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ça, c'est clair. Je suis parfois très honteux quand je fais le bilan de ma vie, le bilan en solitude, tout seul. Je dis, mais Seigneur, heureusement que nous sommes sauvés par grâce, parce qu'il n'est pas possible d'être sauvé par les bonnes actions, par un bon ministère, etc. Derrière tout ça, quand on gratte, il n'y a que du péché. Et alors, qu'est-ce qui nous permettrait de présenter devant Dieu en ayant, chers amis, attendez, je dois regarder mon enregistreur. Bon, je ne m'en sors pas avec cet enregistreur, excusez-moi.
Ça va être enregistré sur le téléphone. Ça met un radio là.
Bon, nous allons arrêter cet enregistreur. Nous sommes aujourd'hui, je veux bien le dire, une sœur a demandé cela. C'est la prédication 2022 numéro 8. Elle m'a demandé de mettre un numéro à chaque prédication. Pourquoi? Parce que si quelqu'un veut, par exemple, elle dit, il faudrait que tu écoutes sur Facebook, c'est enregistré telle ou telle prédication, ben écoute au début, le pasteur va dire c'est la prédication numéro 8. Bon, aujourd'hui c'est un numéro 8. J'aurais dû le dire plus tôt. Mais regardez bien, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Donc clairement, clairement, dans la première communauté chrétienne à Jérusalem, voilà que le demi-frère de Jésus dit, nous usons de la malédiction et en même temps la bénédiction. Et rappelez-vous, dans Matthieu chapitre 5, Jésus dit qu'on ne peut pas maudire, on doit bénir. Et on doit aimer ceux qui ne nous ressemblent pas, etc. C'est un fondamental chez le chrétien. Il ne peut pas céder à l'usage d'une langue pour maudire. C'est en cela que c'est une iniquité. Dans la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir? Par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère, salée. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Enfin, maintenant, on a les usines de dessalement de mer. C'est pas la même chose. Donc, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Et pensez bien que dans cet épître de Jacques, tout au début, ça doit être un gros problème pour la communauté chrétienne. Jacques dit ceci. Chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, nous voyons bien que ici, l'épître commence sur le thème de la sagesse et donc de l'exercice de la pensée et de la parole qui suit la pensée. Si la parole suit l'instinct, ça va faire des dégâts dans une assemblée. Partout d'ailleurs. Au travail, etc., dans un ménage, dans un couple. Alors, je reprends chapitre 3 de Jacques. De Jacques, épître de Jacques, est ceci. Verset 14. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. On peut trouver ça dans les couples. On peut trouver ça dans les amitiés. On peut trouver ça au sein du travail. On peut trouver ça au sein des églises. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. C'est extrêmement profond ce verset. Ne mentez pas contre Christ, parce que Christ est la vérité. La vérité, c'est pas une idée à moi. Jésus est venu et il a dit à Pilate, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage de la vérité. Et il le dit aussi, autre part, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ne mentez pas contre Christ. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Imaginez, Jacques qui dit ça pour des chrétiens dans une assemblée, la première église. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et rappelez-vous ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, nous avons un Dieu de paix et d'ordre. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exemple de duplicité, donc on ne peut pas être double. Exemple d'hypocrisie, le fruit de la justice, c'est-à-dire de la sainteté, de la vie en Christ, est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Et ceux qui recherchent la paix, vous savez très bien, chers amis, que dans Matthieu 5, dans les Béatitudes, au chapitre 5 de Matthieu, nous avons fondamentalement un appel à la paix. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix au sein du corps de Christ, nous devons tous être à la tâche pour semer la paix. Et dans nos familles, dans nos relations avec nos amis, même envers nos ennemis, nous devons semer la paix. Et si nous prétendons être chrétiens en étant instruments de violence, de critique, de méchanceté, de soupçon, d'hypocrisie, de malédiction, alors nous ne sommes pas fils de Dieu. Je relis le verset 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et si nous regardons dans Matthieu 13, versets 38 et 43, nous allons encore découvrir quelque chose. Matthieu 13, Vous savez très bien que Jésus a enseigné la parabole du blé qui est semé par Dieu, et puis ensuite, pendant la nuit, il vient quelqu'un d'autre qui sème de l'ivraie, du chien d'an. Et c'est la pagaille. Quand tout ça pousse, les ouvriers viennent en trouver le maître, hein, et puis ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait? On arrache l'ivraie, le chien d'an. Et donc Dieu dit non, pas du tout. Il faut attendre la moisson, et on triera. Le chien d'an triera le blé, puis on mettra le bon grain dans le grenier, et le reste on brûlera. Et donc, qu'est-ce que c'est que le chien d'an? Alors, dans Matthieu, chapitre 13, verset 38, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc, les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, qui utilisent leur langue, leur cœur, leurs pensées, leurs yeux, leur attitude, pour exprimer la sainteté de Christ et la vivre. Sainteté de Jésus. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. C'est ceux qui font le contraire. Bien qu'ils sont dans le champ, ils ont l'apparence d'être comme le blé. Ils poussent en même temps le blé. Donc, c'est un avertissement qu'au sein des communautés, on peut avoir du vrai blé et de l'ivraie. Et si vous voulez, bien sûr, on ne peut pas arracher l'ivraie, il est impossible de faire une sélection parmi les gens et de détruire ceux qui sont faussement chrétiens. Non, il faut attendre que le Seigneur revienne et, bien sûr, là, il y aura un jugement de la part du Seigneur. Au verset 43, « Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc les fils du royaume, les justes et les artisans de paix, les ouvriers de la paix de Dieu, c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est tout à fait des titres pour décrire la vérité biblique, la vérité spirituelle du chrétien authentique. Bon, alors, j'en reviens à ce thème qui est très important. L'attitude du chrétien vis-à-vis des autres chrétiens est une attitude spirituellement ouverte et constructive. Et dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 9, verset 7, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Tu ne veux pas porter ça à Noémie et lui dire que j'arrive pas à enregistrer. Ne le fais pas tomber. Ne fais pas ton moins. Dis à Noémie qu'elle me mette en route. Hein? Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, réellement, ça veut dire quoi? C'est que si nous avons de l'amour les uns pour les autres, bien sûr, nous sommes imparfaits, et Dieu voit notre bonne intention, voit notre attitude du fond du cœur, de l'esprit, et il ne va pas s'arrêter à des broutilles, à s'arrêter à des choses que nous avons ratées pour nous accuser. Non, il sait très bien que nous sommes des êtres faibles et pécheurs. Nous sommes des petites brebis. Alors, que dit encore Pierre dans la première épître de Pierre, chapitre 4, verset 9, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Bon, pourquoi? Parce que au début du christianisme, et sans doute que c'est encore comme ça dans beaucoup de pays, les chrétiens étaient, dès que quelqu'un était converti à Jésus, dans le milieu juif ou dans le milieu païen, il était rejeté par la famille, il était rejeté du travail, et il devenait un paria. Il pouvait devenir un rien du tout pour la société, pour tout le reste de son existence. Il était rejeté, et parfois même, il subissait des sévices physiques, économiques, il perdait tout, et il devait fuir. Et la règle essentielle des chrétiens était la fraternité. C'est-à-dire, où que le converti aille, il devait rencontrer chez les frères un amour tel que Jésus l'a pour lui. Et évidemment, ça a été la clé de la réussite des églises durant les premiers siècles. C'est que cet appel à l'amour que Jésus a instauré, il leur a appris. Hein? Eh bien, il leur a montré comment il fallait faire. Il a lavé les pieds de ses disciples. Jean chapitre 13. Faites la même chose, il leur dit, quand il a fini de laver les pieds. Il dit au chapitre 13 aussi, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, la règle fondamentale du comportement chrétien est, spirituellement, cette règle est l'amour. L'amour mis en pratique. Pour que les chrétiens qui sont rejetés, marginalisés, critiqués, dépossédés, puissent être aimés et avoir une vraie famille. C'est pour ça que Jésus a dit « qui est mon frère, qui est ma sœur, qui est mon père, qui est ma mère, ceux qui font la volonté de mon père ». C'est cela que ça veut dire. Nous avons une identité et aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes tellement habitués à être individualistes, tellement à avoir chacun notre compte en banque, notre maison, notre voiture, moi je, etc. On a tellement peur que si pour l'évangile on perdait tout, on est à peu près sûr qu'il n'y a aucun chrétien qui nous prendrait chez lui. Aucun chrétien qui nous prendrait chez lui pour longtemps et qui partagerait sa nourriture, ses biens et tout. Nous n'avons pas cette conviction que ce serait fait. Donc, nous sommes comme apeurés, nous sommes comme effrayés devant la marginalisation du chrétien et nous ne voulons pas souffrir. Nous savons que la mise en pratique de l'évangile parmi les chrétiens est devenue extrêmement rare en Occident et donc, nous ne bougeons plus. Nous sommes comme bloqués, paralysés. Et tandis que dans les 3-4 premiers siècles, il était évident que l'hospitalité, cette pratique de l'accueil, était une véritable pratique constructive qui a fait la survie de l'Évangile, qui a fait la survie de la propagation de l'Évangile, qui a permis le vrai témoignage du vrai Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 8, Jésus-Christ nous a enrichis de sa pauvreté. Et, chers amis, nous avons reçu ici pendant 39 ans des réfugiés de tous les pays. Après, ça nous a été interdit par notre maire, notre bourgmestre, mais voilà, un jour on le refera, quand il ne sera plus là, ça sera un autre, j'espère qu'on pourra le refaire. Eh bien, pratiquement, il est clair que nous avons tellement reçu de toutes ces personnes qui sont venues de partout, que nous avons logées, que nous avons été enrichis de leur pauvreté. Nous avons reçu, mais c'est incroyable, nous avons appris à connaître Christ en pratiquant l'hospitalité. Nous avons appris à vivre Christ. Et donc, l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le don qu'il a reçu. Donc, nous avons clairement une condition morale et spirituelle très importante dans l'Évangile, c'est l'amour en pratique, la mise en pratique de l'amour évangélique, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui. Et si certains chrétiens, malgré tout, c'est très appréciable, nous l'avons remarqué en voyageant un peu partout en France, pratiquent cet amour, c'est pour une heure ou deux, un jour ou deux, trois jours. Mais si c'était pour deux, trois ans, huit ans, cinq ans, chez eux, dans leurs pieds, comment ça irait? Nous avons expérimenté cela, nous, en ayant des gens à demeure, tout le temps. Alors nous pouvons comprendre que Jésus a dit, celui qui croit en moi, qu'il porte sa croix, qu'il me suive. Il faut mourir à soi-même. Il faut exécuter des choses qui, naturellement, ne sont pas possibles. Quand vous n'avez rien dans le frigo ou dans le portefeuille, vous accueillez, vous. Eh bien, Jésus le faisait, Jésus le demande. Quand il dit, regardez, les oiseaux des champs, ils mangent. Les oiseaux, les lys des champs sont vêtus. Tout cela est plus beau, plus glorieux que Salomon. Oui, Salomon était un ravisseur d'argent et de femmes. Il accumulait les gloires comme plein d'hommes aujourd'hui et de femmes le font aujourd'hui dans le monde, en dominant les autres. Et pourtant, il avait le nom de Dieu dans la bouche. Mais c'était un porte-à-faux, c'était faux. Tandis que Jésus prend en exemple le lys des champs qui est sans péché et qui est beau et qui est là pour réjouir notre cœur. Donc nous devons être comme un lys des champs, nous devons être comme les oiseaux, nous devons nous confier dans la providence de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit cela dans Luc chapitre 12, « Cherchez le royaume des cieux, le reste vous sera donné par surcroît. » Vous savez, chers amis, quand nous avons accueilli des personnes ici, souvent nous étions en péril au niveau argent. Il fallait prier, se mettre à genoux, prier, passer des heures à prier, et puis il fallait compter. Beaucoup de chrétiens des France ont eu de l'argent alors que je ne les connaissais pas, je ne les visitais pas, ni ma femme. Et nous avons reçu comme ça pendant 39 ans une somme de 20 000 à 45 000 euros tous les ans pour l'accueil. L'accueil, pas pour nous. Oui, c'est, non, non, nous recevions de la mairie et d'église de l'argent pour notre famille. Mais l'accueil exigeait de telles sommes. Pourquoi? Parce que les réfugiés n'allaient pas au chômage, n'allaient pas à CPS, ne cherchaient pas des aides sociales et je ne voulais pas. Il fallait que nous restions libres de nos mouvements et sous la grâce de Dieu. Et vous savez que les taquineries de l'administration sont très nombreuses dès le moment où on demande de l'argent. Donc il fallait éviter ça, autrement on aurait été catalogué de personnes qui amenant tous les pauvres du monde dans la commune et puis qui ruinant la commune. Donc on devait éviter cela. L'attitude du chrétien est de dépendre de Christ à un point que il aime plus qu'il ne peut. Il aime au-delà, mais il aime comme Dieu le peut. Le pécheur devenu chrétien croit dans l'impossible, dans l'amour divin, au-delà de ses moyens, de ses forces. Le chrétien converti, spirituellement vivant, animé du Saint-Esprit, qui cherche à être authentique, traverse la vallée de l'ombre et de la mort, c'est-à-dire il vit dans la société, comme la brebis derrière son berger. Psaume 23 et Jean chapitre 10 et Ézéchiel 35 ou 34. L'attitude du chrétien est une dépendance et une confiance absolue. Face à la sombre tempête des porte-monnaies, face à la sombre tempête des factures, face à la sombre tempête des imprévus, des tuiles, eh bien, la fidélité de Christ est grande. Elle est sublime. Nous en avons fait l'expérience. Alors, confessons une foi imparfaite à Jésus, mettons-nous à genoux, ou à plat ventre, tournons-nous vers le Seigneur dans le secret de la chambre et demandons-lui un amour infini, des tonnes d'amour, des tonnes de force spirituelle que nous n'avons pas. C'est ainsi que c'est dans notre faiblesse que Jésus peut se glorifier. C'est pour ça que Jésus a dit à Paul, c'est dans ta faiblesse que je me glorifierai. Ma grâce te suffit. Le véritable évangile est une rébellion contre les instincts humains, contre l'esprit sécuritaire. C'est une rébellion contre les calculs humains, contre les préjugés. Ça va au-delà. L'évangile est une provocation face à notre nature si pauvre en amour, si pauvre en foi. Mais Jésus a dit, si vous avez un grain, la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, jette-toi à la mer. Je me rappelle, chers amis, qu'une fois j'avais 28 000 euros de trous dans les finances de la maison, avec tous les réfugiés qu'il y avait là. Alors là, j'ai craqué pendant une heure ou deux. Et j'ai rabroué certains réfugiés qui étaient là dans la maison. Puis un jour, un Africain, un grand baraqué, Pierre, me dit, mais pasteur, vous ne devez pas vous énerver comme ça. Faites confiance à Dieu, vous l'avez toujours fait. Ne craquez pas, pasteur. Et je reçois la visite inopinée d'un Africain que j'avais connu quelques années avant, que j'avais aidé, et qui habitait Maastricht, un géant. Un homme, il avait pris le train, le bus, il arrivait, il est resté un quart d'heure ici à la maison. Poussé par Dieu, frère, pasteur, j'ai prié pour vous, et je viens vous dire ceci, continuez à aimer, restez dans l'amour. S'il vous plaît, n'abandonnez pas l'amour. Je vous en supplie, au nom de Jésus. Et il est reparti. Venir de Maastricht par le train, le bus, me dire ça et puis retourner. C'est Jésus. Est-ce que Jésus ne peut pas vous dire à cela, à vous? Restez dans mon amour, demeurez dans mon amour. Mes chers amis, la clé d'une vraie vie, victorieuse, heureuse, c'est d'être dans Christ, en Christ, dans l'amour de Christ, dans l'amour du Seigneur Jésus. Jésus est l'amour par définition. Si vous voulez conquérir votre conjoint, votre conjointe, et conquérir non pas dans le sens de l'orgueil, le conquérir, c'est-à-dire le pousser en avant pour qu'il s'améliore, il faut cet amour. Si vous voulez, dans le travail, que quelqu'un change, il faut cet amour. Si vous voulez que dans l'Église, quelque chose bouge, dans l'Assemblée chrétienne bouge et change, il faut cet amour. Il n'y a pas moyen de faire l'économie de ce commandement. Demeurez dans mon amour. Je suis en train de chercher où est ce verset, mais bon, si vous le trouvez... Je vois par exemple dans Jean, au chapitre 15, « Je suis le vrai cèpe, mon père est le vigneron, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, tout sarment qui porte de fruits, il l'émonte, donc il le taille, il le perfectionne, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Verset 5, « Je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, en qui je demeure, c'est-à-dire habite, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, quand ça tourne mal dans un couple, parce que c'est beau, hein, derrière les façades, etc., mais les couples, c'est pas gagné, hein, c'est jamais gagné. Et dans les amis aussi, l'amitié. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut demeurer dans l'amour de Christ. C'est la meilleure façon de réussir quelque chose dans ce monde si difficile à vivre. Dans cette nature si faible que nous avons, devenue faible à cause du péché d'Adam et Ève. Cette nature qui sera complètement transformée, évidemment, promue en avant dans la gloire de Dieu par pure grâce, par cadeau. Ce sera un cadeau. Notre promotion est déjà en cours. Notre promotion est en cours. Alors, apprenons à reconnaître nos torts. Apprenons à reconnaître nos péchés. Et à les dire à Dieu. Et quand on a offensé quelqu'un, apprenons à lui demander pardon. Quand on a blessé quelqu'un, si on ne se rend pas compte qu'on l'a blessé, on va peut-être l'apprendre par quelqu'un d'autre. Oh, tu sais, il ne veut plus te voir parce que c'est ça. Mais il faut aller le trouver. Alors, il faut arriver à établir la paix. Il faut être artisan de paix. D'amour. Parce que l'amour est suivi de la paix. C'est le fruit de l'amour, la paix. La paix est le fruit de l'amour. Alors, pour purifier la vie d'une vie de couple, pour purifier la vie d'une vie de famille, l'amour de Christ en nous. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit. Pour purifier une vie d'église, d'assemblée, il faut être en Christ. Alors, vous vous rappelez dans l'Apocalypse que la première église, c'est une église formidable en Turquie, à Éphèse, dans l'Apocalypse chapitre 2, elle a abandonné son premier amour. Ben, vous savez, si l'église, les chrétiens ont perdu, et ça fonctionne bien, on chante, on est baptisé par immersion, parce qu'il y avait que ceux-là, pendant des siècles, il y avait que ce baptême-là, quand les gens avaient la foi, et puis ensuite, etc., on pratiquait des tas de choses, mais on avait perdu cet amour divin en nous, eh bien, on a fini par ne plus s'aimer. Et qu'est-ce qu'a dit Christ à cette église? J'ôterai votre chandelier à sa place, c'est-à-dire, votre église disparaîtra. Et il est venu quelque chose d'autre à la place, l'islam. Toutes les régions, l'Algérie, le nord du Maroc, la Syrie, l'Irak, l'Égypte, plein de pays étaient chrétiens. Chaque fois, on est sorti de ce commandement de demeurer en Christ, de demeurer dans l'amour de Christ, on s'est affaibli, on s'est divisé, on ne s'est plus aimé, et pour finir, eh bien, on a adopté notre religion, ou simplement, on fait des prosternations, des règles, pour se donner bonne conscience. Et on a peur de la mort, et on ne sait pas si on sera sauvé. Mais on craint Dieu. Tandis que si on est dans l'amour de Christ, on est aimé de Christ, on progresse dans la confiance avec Dieu, et on sait qu'on est uni à Dieu. Et on a la paix avec Dieu. Vous voyez que les chemins sont différents. Perdre la communion avec Jésus-Christ, c'est se préparer un chemin où on va s'égarer. Et c'est pour ça que notre Europe est en train de s'égarer et va retourner vers de l'égalisme, vers de l'autoritarisme ou du fascisme, et elle va retourner vers des religions monothéistes, fortes, légalistes, dominantes, parce que l'homme aura semé par médiocrité des règles dures qui vont lui tomber sur la tête. Il faut accepter la parole douce et légère de Jésus, cette invitation à rester en communion avec lui. Il faut avoir du temps dans la prière pour lui dire l'amour qu'on a pour lui et recevoir de lui une instruction spirituelle par le Saint-Esprit, lire son évangile pour être dans son amour. Et il faut pratiquer l'amour. Et pas se payer de mots. Simplement, je donne l'aumône à droite et gauche, et puis c'est bon. J'aime mon prochain. Bon. Tout le monde sait faire ça, hein, à travers le monde, dans toutes les religions. Pardonner dans une communauté chrétienne, oui, parce que nous sommes des pardonnés de Dieu. Nous avons donné notre confession à Dieu, nous sommes des pécheurs, nous avons besoin de ton pardon. Jésus-Christ est mort pour mes péchés sur la croix. Je sais, Seigneur, que Jésus m'a pardonné mes péchés. J'en suis pleinement convaincu. Eh bien, Seigneur, moi aussi, je dois pardonner comme Jésus a pardonné. La communauté des pardonnés qui devient pardonneur, qui devient pardonnant. Nous entrons dans une dynamique où l'on se pardonne. Si nous ne pardonnons pas, la foi de Jésus-Christ est déshonorée. La foi que l'on estime bonne en nous est déshonorée. Nous avons déjà jeté un coup de couteau dans la foi que nous confessons. L'honneur du chrétien, c'est la clémence. L'honneur du chrétien, c'est le pardon. C'est la bienveillance, c'est la douceur. C'est un honneur sans gloire. C'est un honneur intérieur. C'est une richesse de cœur et d'esprit. L'attention fidèle aux autres. La miséricorde envers celui qui me blesse, qui me méprise, qui m'ignore ou qui ne fait pas attention à moi. La miséricorde envers celui qui m'a critiqué. La compassion envers celui qui souffre. Tout cela est un grand honneur. Je ressemble à Jésus-Christ. Je fais comme lui. Je suis comme lui dans la situation où je vis. Et je n'en tire pas profit, je n'en tire pas orgueil. J'en tire simplement une transformation profonde de mon être. Je ressemble de plus en plus à l'amour de Christ. La force du cœur se développe en moi. Mes pensées, mes actes, mes nuits, mes jours deviennent de plus en plus à Jésus-Christ. Chers amis, il est clair que Jésus reviendra. Lui qui voit tout aujourd'hui, lui qui voit tout aujourd'hui, qui sait tout, il a, bien sûr, un plan. Le temps de son absence physique où on ne le voit pas, alors qu'il est là, qu'il nous voit, c'est le temps de notre responsabilité. C'est le temps de notre liberté pour montrer ce qu'on est réellement, si réellement on adhère à lui ou pas. Prenons Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Révélation de celui qui a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Alors, qui est ce Jésus-Christ? Qui est ce Jésus-Christ? Eh bien, regardons bien. Au verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de prêtres, c'est-à-dire d'adorateurs de Dieu, pour son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous voyons bien que nous recevons, il nous aime, nous recevons le pardon des péchés, nous recevons un statut, nous pouvons prier directement à Dieu, sans intermédiaire, sans bâtiment, sans titre, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de la prière, et il faut reconnaître à Dieu que c'est immense ce cadeau-là, il faut lui dire, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles, amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Ah ah! Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Bien sûr, il y en a qui vont se lamenter parce qu'ils ont négligé la parole de Dieu et d'être vrais. Mais il y a des autres qui vont être bien heureux, joyeux, évidemment. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, c'est la première et dernière lettre de l'alphabet grec. Hein ? Je suis l'alpha, le début et le commencement, si vous voulez, le début et la fin, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était qui vient, le Tout-Puissant. Alors, ce Dieu de gloire qui a parlé, ce Christ de gloire qui a parlé à Jean, à l'apôtre Jean, il est apparu spécialement dans certains versets, je vais vous les lire, au chapitre 1. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, donc les églises, et au milieu de 7 chandeliers de 7 églises, quelqu'un qui ressemblait à un humain, un fils d'homme, vêtu d'une longue robe blanche, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze en fusion, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux, des cataractes d'eau. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, donc 7 messagers, 7 personnes humaines qu'il envoyait entre l'église, entre Jean et les 7 églises. De sa bouche sortait une épée aiguë, donc l'évangile, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, voici ce que Jean dit, alors que c'était Jean l'avait connu pendant 3 ans, il mettait sa tête sur son épaule. Jean était quelqu'un de très sensible, qui aimait vraiment Jésus, qui était vraiment proche. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, presque dans les pommes, on dirait. Tellement il est choqué, il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant, ressuscité. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Mort sur la croix, évidemment, je suis vivant. « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, c'est-à-dire que celui qui croit en moi vivra éternellement. » Rappelez-vous ce que Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra éternellement. » Alors, écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Voilà que Jean reçoit un message d'amour de la part de Jésus pour les églises et pour le futur des églises. Et ça, nous pouvons apprendre à écouter cela les autres jours. Je vais essayer d'expliquer ce message du futur des croyants qui nous concerne, de ce futur que Jésus prépare pour nous. Soyez bénis, j'arrête maintenant à cette heure-ci, parce que je voudrais peut-être faire des visites encore ce soir, et que Dieu vous garde dans son amour. Mais approchez-vous de son amour. Retirez-vous quelque part et dites-lui, Seigneur Jésus, je te demande infiniment de connaître ton amour. Manifeste-toi dans mon âme, dans mon esprit. Et lisez les psaumes, lisez les évangiles. Il y aura un miracle. Moi, le miracle est arrivé avec un verset, tout simple, à 16 ans et demi. Depuis lors, je suis en forme, tout le temps. Bien que j'ai eu des tuiles et que j'ai fait même des graves bêtises, des fois, plus que des bêtises, des péchés. Eh bien, c'est Dieu qui est fidèle, c'est pas moi. J'essaye, moi. Eh bien, le verset qui m'a touché, qui m'a percuté, c'est celui-ci. Celui qui me donne sa vie la sauvera, celui qui veut la conserver pour lui-même la perdra. Ça a été le choc. J'étais en demeure de savoir ce que je devais choisir. Mais Jésus leur a dit par amour. Il m'a jamais obligé. J'ai pas ramassé des coups de matraque ou des coups de pied dans le derrière. J'ai pas été privé de nourriture. Je n'ai pas attrapé des maladies graves. Je n'ai pas reçu de malédiction de la part de Jésus. Jamais Jésus ne maudit. Jésus bénit toujours. Et vous savez la caractéristique de la bénédiction? La bénédiction, c'est quand Dieu dit quelque chose sur moi, il l'exécute. Et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Aucune tristesse. Je trouve, à ce moment-là, une joie de vivre, une joie de paix, une paix intérieure que personne n'a pu me donner dans un magasin, dans l'école, ou même un conjoint. Un conjoint. L'amour humain ne donne pas cette joie que Jésus donne. Jésus nous donne une paix supérieure, éternelle en nous. Recevez ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas, dit Jésus. Amen.